On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette émission, Carbone Zéro donne la parole à Gilles Bonneau. Nous partons à sa rencontre, un citoyen en transition qui ne cesse d'expérimenter différents systèmes de production pour trouver un équilibre. C'est quoi là les huîtres?
Je suis sur des sols plutôt acides qui manquent de calcaire et du coup je fais un apport aux volailles tous les 2-3 jours, je casse des huîtres, okay. Elles mangent. Les huîtres à Noël, j'en récupère chez les copains ou la famille qui vient. Voilà, ça c'est un truc que je trouve pas sur ici et c'est vraiment indispensable. L'huître, elle t'apporte du calcium, du phosphore, enfin plein d'éléments, de sels minéraux de la mer. Et comme je manque sur mon système de ces éléments-là, voilà, ça arrive, elle mange, elle digère, je retrouve ça dans les œufs. Les œufs, je les mange, les coquilles repartent au compost, les fientes des poules sont déposées sur le terrain ou la nuit dans le poulailler, puis je récupère tout ça. Donc je retrouve tous ces éléments, ces bons éléments de la mer, viennent sur mon système et tu peux les retrouver. Alors tu les vois pas, hein, on est dans la chimie, hein, mais tu les retrouves sur le système et ils apportent leur part.
Donc c'est une sorte de complément alimentaire.
Exactement.
Pour l'animal, mais aussi pour les sols, pour la terre.
Exactement, ça se retrouve. Rien n'est perdu. Ah, je casse les huîtres, là.
Donc ils viennent se servir là directement.
Ouais. On va aller voir la tournée de canards qui se prépare. Parce que ce matin, donc, on a tué 7 canards.
Ouais.
On en a des jeunes là, il y en a 3 jeunes tu vois, qui se promènent, qui seront prêts dans 2 mois là.
Ouais.
Et on a les futurs qui sont là. Là, tout doux, tout doux, tout doux. Oui, je t'embête pas, regarde. Elle couve, il y en a 17. 17 ou 18 œufs là.
C'est elle qui a tout pondu là?
Non, j'ai récupéré des autres femelles et je lui ai mis un ensemble d'œufs. Oui, mais sinon elle en a pondu. Elle aurait pu tout pondre, mais là. Au moment où j'ai décidé de la faire couver, j'ai récupéré des œufs des autres filles.
Mais donc là, elle fait le boulot pour tout le monde, quoi. Elle couve à la place des autres.
Ouais, elle va couver 35 jours. On va la sortir là, parce qu'elle est avec les poules, là. Donc on va la mettre dans un coin à part, que les petits canetons naissent pas ici, parce qu'avec les poules, ça va pas faire, quoi. Ça va même être un peu délicat pour les jeunes canetons.
Pourquoi les poules, elles vont les embêter?
Ouais, elles peuvent les tuer. C'est pas toujours bien. C'est un peu vif, les poules, des fois. Ouais. La partie chèvre, elle commence à pouvoir rentrer là, mais il y aura la partie nourrissage et le coin traite pour récupérer le lait. Donc là ici, on est dans un lieu plutôt de stockage des branches. Parce que j'achète du foin, je ne produis pas mon foin, donc je l'achète. Mais plus je nourris mes chèvres avec des branches, des feuilles d'arbres, moins je consomme de foin. Donc, voilà. Donc il me faut des lieux pour stocker, faire sécher, stocker du feuillage d'arbres.
L'eau que tu as ici, d'où vient de la rivière?
Alors, elle vient de la rivière, mais via un réseau d'irrigation géré par une association d'irrigation des agriculteurs. Donc.
Okay. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es installé ici, sur ce terrain?
Ça fait 20 ans qu'on a acheté le terrain et on a déménagé, on a fait construire la maison en 2000. Donc, tu vois, ça fait 18 ans qu'on est là. Et depuis qu'on est là, on a... 2 chèvres, 4 poules, voilà. Mais là, ça fait vraiment 6 ans que je suis à 100% sur le lieu. Mmh. Et que du coup, d'une activité un peu de week-end et de fin de journée, je suis passé à quelque chose de plus prenant, plus consistant, plus poussé, plus réfléchi, plus productif. Voilà, et bon, il reste à faire, mais il y a déjà un petit bout qui est avancé, quoi.
Mmh. Il y a ta fille qui nous a accueillis avant, qui disait qu'elle est née à la maison.
Oui. Oui, sur les 3 enfants, oui, ils sont nés à la maison. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'était aussi une démarche de notre part de de tenter l'expérience. Et puis on a la chance en Ardèche d'avoir des sages-femmes qui accouchent à la maison et qui font un super travail de préparation et puis qui accompagnent après.
J'aime bien parce qu'il y a toute une démarche là dans ce que j'observe, où il y a une forme de cohérence dans ce que je ressens ici sur ton terrain, Gilles.
Parce que là, tu vois, on est vraiment, tu as des tas de branches là. Ça, c'est tous les fagots d'une année qui sont venus nourrir les chèvres de l'extérieur. On retrouve des branches d'olivier, de mûrier, de chêne vert, d'acacia, du frêne. Donc ces branches, l'idée, parce que là, on n'est pas encore tout à fait opérationnel là-dessus. Comme on a fait le choix de partir sur une cuisinière à bois, et dans une cuisinière à bois, tu ne mets pas des grosses bûches, tu mets de la bûchette. Donc tu vois, si je prends cette branche là, une branche là au hasard, ça c'est de l'olivier, elle fait un diamètre de 3, il y a deux bonnes petites bûchettes pour aller à la cuisinière. L'idée, alors là il y a des petits prototypes, c'est de faire des massifs de branches sèches qui protègent certaines zones du grattage des poules et de cultiver à l'intérieur de ces massifs. Ces zones que tu vois un peu vertes derrière, c'est des anciens massifs de branches. Les poules n'ont pas trop osé y aller, du coup, la végétation a poussé. Donc, je préserve la vie du sol, je produis de la verdure pour nourrir mes chèvres, et l'idée à terme, c'est vraiment produire du blé, des courges, des légumes, des plantes qui vont nourrir les poules, au cœur de la basse-cour. Et petit à petit, ces branches vont pourrir, et vont retourner sous forme de petits broyats à la vie du sol, quoi. Et la boucle est bouclée.
C'est vraiment ça, donc rien ne se perd, tout se transforme.
C'est l'idée, t'as pas énorme de tout, mais les éléments les uns à côté des autres, les arbres, avec les chèvres, avec les poules, avec le potager, avec l'énergie bois, tout ça se complète. C'est un système avec des éléments petits, mais l'interaction entre les éléments fait que c'est un système qui se tient et qui est pérenne. Et la base, c'est les arbres, la base, c'est ses branches. Et les arbres, c'est ce qu'ils récupèrent. Ils récupèrent toute leur matière, une petite partie dans le sol, mais surtout dans l'air, l'azote, le carbone. Enfin, un arbre, il t'amène sur ton système plein de matière en quantité et diversifiée de manière gratuite. Il sait faire ça. Il fait merveilleusement bien. Pourquoi se passer des arbres, quoi. Pour moi, l'arbre, il est au cœur du dispositif, quoi.
Et tout le bois qu'on a, donc tu le récupères où? Tu m'as dit il y a de l'olivier.
Bon, moi j'ai des oliviers, mais j'ai pas des branches aussi fortes. Là, c'est pareil, les potes qui taillent chez les gens à droite à gauche, quoi. Donc ils me garantissent qu'il n'y a pas de traitement dessus. Ça, c'est important. Et tu vois, cette expérience que je fais à petite échelle là, on est dans la grande mode des déchetteries pour récupérer les déchets verts, et puis c'est broyé, c'est composté très très bien. Mais il y aurait des petites fermes partout, comme ça, dans tous les quartiers, pour récupérer ces déchets d'espaces verts qui sont une ressource pour de l'élevage, ce serait top. Et si en plus les pépiniéristes vendaient des arbres pour des haies, des arbustes pour des fourragers, parce que les chèvres mangent beaucoup de choses, mais pas tout. Tu pourrais imaginer d'avoir une haie diversifiée, mais de plantes nourricières pour les chèvres, et que du coup, hop, tu tailles et t'emmènes juste à côté, chez le paysan à côté, pour ses chèvres, quoi.
Tout est à réinventer aujourd'hui sur notre territoire. Quand tu parlais de ce mot transition, donc toi tu es vraiment en train de vivre l'expérience de faire autrement ou différemment, en tout cas d'une manière plus cohérente.
C'est ça, ouais. Après, à mon échelle, selon mes compétences et l'expérience aussi, parce que ça coûte beaucoup, puis le regard sur les choses. C'est les formations en permaculture, en agroécologie qui m'ont permis de regarder les éléments d'un système différemment et de comprendre finalement tout à sa place, tout à son utilité, tout est une ressource. Il ne faut pas surexploiter. Après, on jardine, je coupe des arbres, je coupe des branches, je coupe des têtes de canard, je consomme sur mon système, quoi, mais c'est le but de toute façon. Donc on n'est pas dans un système où il y a une grosse exploitation, une grosse récupération de matière, quoi. Pour qu'il dure dans le temps, quoi, ce système. Si je coupe tous mes arbres d'un coup, c'est fichu, quoi, pour l'année prochaine.
On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Et des bambous aussi, on le voit pas là en radio, mais il y a partout du bambou sur ton terrain.
Et ça, c'est la passion du bambou. Quand j'avais 16 ans, j'ai récupéré pas mal de variétés de bambou. Elles m'ont suivi. Et puis quand je suis arrivé ici, je les ai lâchées. Je les ai lâchés sur le terrain, quoi. Donc voilà, là on est dans le potager familial, parce qu'il y a un deuxième potager carrément un potager école à 200 mètres en dessous. C'est vraiment un peu le jardin Gilles et Sandrine, quoi. Alors Sandrine cuisine, moi je cuisine très peu, et moi je suis à la ferme, et comme Sandrine travaille à l'extérieur, elle est à la ferme, mais beaucoup moins que moi. Donc le jardin, on s'y retrouve, c'est notre point commun.
Excellent.
Et c'est le point commun entre la ferme et la cuisine. La fertilité vient là. Donc on fait les plans de jardin ensemble. On prépare dans la tête pendant l'hiver qu'est-ce qu'on veut produire. Voilà.
Mais ça veut dire que si on est assis devant une assiette dans la cuisine de chez Gilles et Sandrine, on sait exactement ce qu'il y a dans cette assiette.
Alors ouais. Et ça, tu sais, les premières fois... À part le coude rouge au départ et puis le pain qui vient. Mais quand tu fais ton repas avec une entrée, un plat, avec de la viande, même le dessert, les premiers repas, on s'est dit, mais tout vient de chez nous. On était sur le cul, à savoir on était assis, mais on s'est dit, ça touche la satisfaction. T'es pas hyper fier, enfin,
c'est rare. Tu fais partie du 0,01% de la population française qui arrive à produire sa propre assiette sans transformer les produits.
Ouais, alors c'est pas tous les jours et c'est pas tous les repas. Hein. On est en transition, hein. Alors je vais dire un truc là un peu, mais tu ouvres la porte du frigo, tu vas avoir des fraises ramassées juste là, un fromage de chèvre et puis oh tiens, dans la porte du frigo une bouteille de coca. Voilà, au départ ça faisait un peu bizarre quand on a commencé à cheminer dans notre tête, puis il faut accepter les choses aussi. On est une famille en transition. On a un pied quelque part, on a encore un pied là, c'est comme ça. Sauf que si un jour le supermarché y ferme, la bouteille de coca, elle sera plus dans le frigo et le fromage de chèvre, lui, il sera toujours là, quoi. Et les enfants sauront faire du fromage de chèvre.
Tu utilises beaucoup le mot transition, une famille en transition. Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot transition ?
Alors tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, j'aurais pas dit. Je mets ma difficulté à faire mon lien avec la société, avec les institutions, l'administration. Là, en ce moment, ça me bouffe un peu les neurones. J'ai l'impression que moi, j'ai entamé ma transition. Je suis en cours. C'est pas, voilà, il y a des choix de me dire justement la transition, c'est gagner en autonomie, être. On n'est jamais. On peut pas. L'autonomie, c'est un leurre. Hein. Là, en ce moment, je suis en train de respirer de l'oxygène. Je ne me fabriquerai jamais moi-même mon oxygène. C'est les arbres. Donc, tu as toujours besoin de quelque chose à côté. On vit dans un écosystème. Donc, tu ne peux pas être autonome. Tu peux pas être. Tu es toujours lié à un système. Mais c'est ce système sociétal, un petit peu industrialo, machin truc. Bon, peu importe comment tu l'appelles. Où finalement. Pour satisfaire tes besoins, d'où ça vient. Tu dépends d'un truc, mais tu sais pas d'où ça vient. Et là, je commence petit à petit à dépendre de choses, mais je sais d'où ça vient. Et je peux agir, et je peux corriger, et je peux influencer. Quand ta vie dépend de trucs que tu sais pas, tu peux pas agir, tu peux pas influencer, tu sais pas. Voilà. Et ça me gêne. Au fond de moi. Donc pour moi, ma transition, c'est de me sentir plus en lien pour satisfaire mes besoins, de pouvoir agir sur cet acte de satisfaire mes besoins. Mais ce qui me fout les boules, c'est que je peux pas. Enfin, on est vite limité, seul, une famille, tout ça. On est fait pour vivre en société parce que on a besoin de se relier à autre chose, à d'autres personnes, à d'autres institutions, à d'autres systèmes, à d'autres réseaux. Et pour moi, cette société, elle doit aussi muter, elle doit aussi entamer sa transition. Et je trouve que ça tarde un peu. Et ça me met en difficulté sur ma propre démarche à moi. Quoi. Moi, j'ai besoin de la société pour continuer ma transition. Alors la société a peut-être besoin de moi, mais c'est moi surtout, j'ai besoin que la société change. Quoi, pour continuer et avancer. Au bout d'un moment, tu rames quand t'es pas seul, mais on n'est pas nombreux. Quoi.
Quelles sont les limites? Tu dis, tu rames, tu as besoin que la société change aussi et avance en même temps que toi, mais elle avancera beaucoup moins vite. Quelles sont les problématiques que tu rencontres face à cette inertie?
Alors bon, ça c'est personnel, mais je manque beaucoup de reconnaissance que la société, les institutions, donc plus localement, concrètement, c'est les institutions agricoles, que les démarches comme ici, c'est une agriculture. Alors, elle est professionnelle dans les faits, mais elle n'est pas professionnelle en termes de production. Je vends rien. Je produis tous les jours, je produis, mais je vends rien. J'ai rien à vendre, en fait. Ou alors peut-être un surplus par-ci, par-là. Mais je peux pas miser sur une production. Si je mise sur une production, ça va me prendre beaucoup de temps. Et ce temps, non, il est au bénéfice du système complet. Donc je peux pas affecter beaucoup de temps sur une production. Moi, j'aimerais être comme tout le monde. Je suis paysan. Bon, je produis rien. Enfin, je produis rien. Je vends rien, mais j'aimerais être reconnu comme paysan, pouvoir avoir un statut, un vrai statut, pouvoir bénéficier de l'accès à des terres ou des aides techniques ou des soutiens des institutions aussi dans mon système. Un avis technique, voilà. Donc c'est plutôt difficile sur une petite structure comme ça d'être au clou, enfin d'être...
Le monde ne va pas vers ça, ne va pas vers l'autonomie.
Ouais, ouais.
Tu vois, c'est ta démarche, tu veux cette souveraineté, et finalement on est plutôt là pour essayer de te contrôler, et pas, on veut pas un peuple souverain.
Alors, je suis d'accord, mais moi ça, c'est... une fois que t'as dit ça, ben moi, voilà, moi je rêverais que les institutions, les services d'État, me disent, bon, ok, votre système, bon, c'est... on connaît pas trop, c'est peut-être un peu nouveau pour nous, mais bon, on va vous faire une place, on va échanger, on va partager, vous êtes de plus en plus nombreux apparemment. Ouais, je rêve sans doute. Hein,
cette notion de reconnaissance, en fait, quoi.
Ben ouais, ouais. Alors, une fois que t'es dans tes champs avec tes animaux du matin au soir, après, t'as très peu de disponibilité pour faire changer les choses et tu peux pas être à la fois dans les champs et... en réunion, en déplacement, à motiver, tu vois, c'est du boulot quand même, faire changer les choses aussi à l'extérieur du système. Quoi. Pour moi, je suis dans mes champs, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de choses, quoi. Ça occupe. Hein.
Mais pour la société civile, enfin moi, il y a cette phrase de Gandhi qui me vient en tête, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et toi, tu l'incarnes complètement, ce changement. Et donc, du coup, ce changement peut être aussi inspirant pour les gens comme moi, ou peut-être comme toi, auditeur, qui écoute cette émission, et qui se rend compte que d'aller vers une forme, donc tu disais l'autonomie complète n'existe pas, mais en tout cas, d'aller vers une certaine forme d'autonomie, ou au moins maîtriser ce qu'on a dans son assiette, c'est possible. Et tu en es l'exemple concret.
Oui. Et il y a des choses, des fois, que je vis au quotidien, je m'aperçois plus que c'est, alors, extraordinaire. Parce que, pour moi, c'est mon quotidien. Je mange tous les jours, là en ce moment, jardin produit bien, du fromage, tout ça. Je sais pas, mon 80% de ce que je mange, ça vient de chez moi. C'est mon taf de tous les jours. Heureusement. Sinon, j'arrête, en plus.
mais Gilles, je vais revenir un peu à l'origine de cette conscience. Comment est-ce que tu en es venu à avoir cette réflexion sur le vivant, vouloir recréer des systèmes et être le plus indépendant possible? Tu es un exemple pour beaucoup de monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Pourquoi est-ce que tu allais vers ce mode de vie plutôt que de te diriger, peut-être, j'en sais rien, dans le système économique et bancaire?
Alors, l'élément déclencheur, faut se prendre une claque à un moment donné. J'étais prêt à me la prendre, mais c'était une claque positive. Ça a été ma première formation en permaculture. Et en plus, coup de bol pas possible. C'était des amis à Terre Humanisme qui faisaient venir Eric Escoffier, qu'on connaît bien dans le milieu de la permaculture. C'est un pote à un pote. Bon, bref. Et il était là 5 jours, de lundi au vendredi. Et Terre Humaniste pouvait accueillir 2 jours, mais il cherchait une maison pour les 3 autres jours, quoi. Et puis il y avait bien 20-25 personnes branchées sur cette formation, un peu improvisée, hein. C'était une fois où il n'y avait pas... Et du coup, on me frappe à ma porte en me disant, ben, pourquoi pas, Gilles, tout ça, permaculture. Moi, je découvrais le terme, je dis, ok, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, ben, on va faire 3 jours chez moi si vous voulez, quoi. Je peux participer? Ah, ben oui, bien sûr, c'est normal, tatatitata. Et puis, pof! Voilà, en plus c'était chez moi, le gars, on a fait le tour un peu de déjà ce qu'il y avait, le jardin et tout. Il m'a fait prendre conscience que, alors deux choses, à la fois j'avais déjà mis un petit peu un pas dans quelque chose en termes d'organisation de l'espace. Et puis il m'a apporté cette vision vraiment de l'écosystème, qu'un système agricole, ça peut être un écosystème. Et moi, mon boulot d'avant, j'ai eu traité des dossiers sur des espaces naturels sensibles, voilà, où on abordait la notion d'écosystème, biotope, sur un aspect nature, naturel. Mais de transposer cette vision d'écosystème sur un système agricole, lié à une famille, et que nous, humains, on fait partie de l'écosystème, waouh, ça m'a posé les fesses. Là, voilà, grande prise de conscience à ce niveau-là, c'est que je fais partie d'un écosystème, quoi. Et qu'en plus, je peux agir dessus, et que je peux aménager, et que je peux en tirer de la ressource, et qu'il y a des ressources que le naturel apporte, que le sauvage apporte, et que... Wow, passionnant. C'était pour moi, d'un seul coup, un livre s'ouvrait hyper passionnant. Là, des fois, tu tombes sur un livre, tu lis les premières pages, et puis tu le descends tellement qu'il est passionnant, quoi. Ben voilà, même effet. Et puis mon lien avec Terre Humanisme s'est affiné aussi. J'ai lâché mon job d'avant pour aller de toute façon vers l'agriculture. Mais je ne savais pas trop laquelle. Et en fait, voilà. Tu vois, c'était un apport extérieur. Hein. Ça n'a pas été... pour cheminer pour là où j'en suis, c'est des gens de l'extérieur qui m'ont apporté de l'information. Je ne suis même pas allé la chercher. J'ai découvert le truc de l'extérieur. J'aurais pu attendre plus longtemps. Donc c'est là où je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, où on a besoin aussi que le système plus général ouvre des portes, apporte de l'information, nous mette en confiance, quoi. Il y a encore plein de gens, je pense, qui n'ont pas encore conscience, parce que personne n'est venu faire toc-toc. Si, on peut. Ouvre ton imagination, si tu peux, tu vois. T'es dans ton truc, bon, tu sais pas. Et ça vient de l'extérieur. Alors après, nourrir ce je sais pas, oui, ça y est, je sais, le nourrir et tout ça, ça vient de l'intérieur. Mais le déclic, c'est l'extérieur. Alors quel extérieur après chacun?
On continue et on voit les tomates. Ouais, alors après, il y a quand même ce système du paillage aussi. Peut-être quelques mots sur le paillage.
Le paillage a le gros avantage d'empêcher la pousse des mauvaises herbes et puis de protéger le sol du rayonnement solaire, du dessèchement. Donc il protège la vie du sol. La vie du sol, c'est primordial. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte à quel point, sous nos pieds, il y a une multitude d'êtres vivants qui fonctionnent et qui, eux, fabriquent un micro-fumier qui va nourrir les plantes, quoi. Donc on nourrit le sol, le paillage, le fumier, et le sol nourrit la plante. Contrairement à l'utilisation des engrais synthétiques, des engrais chimiques, qui amène directement les éléments chimiques disponibles à la plante. Ils boycottent la vie du sol, donc du coup les sols meurent, puisqu'en fait l'agriculture conventionnelle nourrit les plantes. Et donc une fois que ton sol est mort, il n'est plus en capacité de nourrir les plantes, et donc tu es rentré dans un cercle vicieux, du coup tu nourris tes plantes directement, et ton sol se dégrade, et voilà, c'est ce qui se passe sur beaucoup de terres agricoles. Donc la notion de vie du sol, et le sol vivant, est vraiment, c'est important, quoi.
C'est vraiment un laboratoire d'expérience ici, ce jardin. Tu expérimentes plein de choses, de techniques différentes. Une source d'inspiration. Tu parlais de woofing avant, de woofer.
Ouais, et bien au fond du jardin, là-bas, tu vois Ophélie qui est arrivée, et Jérémy, et qui sont arrivés tout début avril, et qui vont repartir début juillet, donc ils passent 3 mois ici, en woofing. Alors... c'est pas le woofing officiel, il y a un site internet, gestion, tout ça. Je les ai rencontrés, ils étaient volontaires à Terre Humanisme l'année dernière. Et ils avaient vraiment envie de passer du temps ici. Et donc on a pu cet hiver y réfléchir et travailler. Et ils sont arrivés, voilà, pour 3 mois.
Donc le concept, c'est un échange, c'est ça. Ils participent à la gestion de ton système. Donc à toutes les activités autour de ta ferme, de ta ferme familiale, en échange de quoi ils sont logés ici?
Voilà, ils sont logés. Bon, cas particulier, ils ont décidé de partir sur une période de vie en nomade. Donc ils ont acheté une caravane, une voiture. Donc c'est leur caravane qui est là. Parce qu'après chez nous, ils vont partir ailleurs. Donc ils font un peu de nomadisme, c'est parti pour quelques temps. Donc ils ne sont pas logés dans la maison, du coup on leur a prévu dans ce petit coin de jardin, leur coin un peu intime. Et en effet après, du lundi au vendredi, on bosse ensemble pas mal sur les jardins, sur la mise en place des jardins. Cette année, j'ai beaucoup fonctionné avec eux. Et ben, on les blanchit, on les nourrit, voilà. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous. Ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on partage, on échange, on se fait des petits points météo pour savoir comment on se sent. Et puis avec un petit système, un petit système de chiffres. Alors est-ce que je vais pouvoir l'expliquer comme ça? Tu verras si tu le gardes, ça. Pour sentir si on se sent bien, si les uns avec les autres on se sent redevable ou pas. Si on a l'impression d'avoir un peu trop donné, tu vois, sur une semaine par exemple, ou 15 jours, si tu as l'impression d'avoir un peu trop donné et que tu aimerais recevoir un peu, alors recevoir ça peut être avoir un peu plus de temps, ou peu importe.
Ou de reconnaissance.
Ou de reconnaissance, voilà. Ou alors si, au contraire, tu as trop donné ou tu as trop reçu, tu te sens un peu redevable et tu aimerais contribuer un peu plus au système. Ou alors si tout va bien, tu es en équilibre. Donc en équilibre, c'est le chiffre 5. Le chiffre 10, c'est si tu sens que tu as donné plus que ce que tu as reçu, et si tu es en négatif...
En fait, oui, c'est ça. Si tu as l'impression d'avoir donné beaucoup, voilà, et pour peu de retour,
t'es en déséquilibre,
c'est
en fait,
ça. Voilà. Tu vas l'exprimer par un chiffre. Donc, voilà, c'est une sorte de petit bilan que vous faites hebdomadairement pour voir un peu quelle est la météo intérieure de chacun et comment est-ce qu'il se ressent dans la répartition, voilà, du travail.
Et donc, du coup, on réfléchit en interne un petit peu, chacun pour soi, quel chiffre on va balancer. Mm-hmm. Et on les prévoit dans les doigts, là. Et on se dit, allez, on envoie les chiffres. Et tous ensemble, on envoie avec nos doigts le chiffre. Ça tourne en général 5-5, hein. Mais des fois, t'as un petit 5,5 ou un 6 ou un 4 et ça lance la discussion, tu vois, et on se dit, bon, comment tu te sens, tout ça, voilà.
Et c'est un facteur essentiel. Quelqu'un chez TH me disait que dans tous les projets collectifs, il y a ce PFH, le putain de facteur humain. Ouais. C'est souvent le facteur là qui va faire capoter un projet. Et donc là, avec des petits outils comme celui-là de communication, ben, ça permet de poser les choses à plat.
Tout à fait, c'est ça. Et en effet, ce facteur humain, c'est la base sur un système, c'est la base du système humain. Enfin, parce qu'on est des humains, donc c'est notre... Voilà. Et donc on est responsable aussi de soi-même dans le système. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai expliqué aussi, on peut pas, s'il y a des choses qu'on garde à l'intérieur et que ça sort 15 jours, 3 semaines, on est responsable aussi de se dire non, ça aurait dû sortir avant, quoi. Je leur disais, je dois pas me sentir responsable du bien-être. Que je sois attentif à votre bien-être, oui. Mais c'est vous qui êtes responsable de votre bien-être chez moi. Enfin, chez moi, oui. Donc, s'il y a des choses qui vont pas, faut que ça sorte, faut que ça vienne. Faut pas garder, quoi. Donc, une fois que tu as lâché un petit peu tout ça, tu sais que la discussion est fluide.
Pour faire le parallèle avec ton système végétal et les interactions entre les végétaux, est-ce qu'il y a aussi ces petits conflits et comment est-ce que ça s'exprime et comment est-ce qu'on les observe dans son jardin?
Y a des plantes qui font de l'ombre à d'autres, hein, par exemple. Donc voilà, tu es amené à désherber, à donner un petit coup de sécateur, à écarter ou à aménager, à prendre soin pour que la lumière vienne là où t'as jugé que c'était bien qu'elle arrive, cette lumière, quoi. Et entre humains, c'est pareil, il faut un peu aménager, il faut un petit peu prendre du temps aussi pour que la lumière arrive là où t'as envie qu'elle arrive, quoi.
Dans cette émission de Carbone Zéro, vous avez écouté Gilles Bonneau.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.